Et le titre de mon message ce matin, c'est la plus simple des listes de tâches. Qui parmi vous fait des listes dans la vie? Levez ta main, allez bien haut. Oh, je m'attendais pas à tant que ça. OK, quand même, c'est quelque chose qu'on fait, hein? Des listes de choses à faire, des to-do listes qu'on dit aussi. Je crois pas être la seule, par contre, avec le retour à l'école. Ceux qui ont une famille, qui ont des enfants ou les étudiants, avec les routines aussi de l'automne qui reprennent, les choses à faire avant l'hiver, il faut rentrer notre bois, etc., etc. Vous le savez comme moi en campagne, qu'est-ce qu'il faut faire? Et aussi avec le message qu'on entend de la société à devoir toujours être de plus en plus productif, nos listes de choses à faire, elles semblent s'allonger encore et encore. Hein? Et 24 heures, on dirait que des fois, on dirait que c'est pas assez pour accomplir tout ce qu'on a à faire sur nos listes de tâches. Et en plus, maintenant, c'est drôle, mais même nos listes de tâches, nos listes le fun, du genre divertissement, on commence à faire des listes pour du divertissement, OK? La liste des séries que je dois écouter, la liste des films à regarder, la liste des choses à acheter, ça ne finit plus. Mais si vous pouvez vous souvenir d'une liste, la liste la plus simple, elle n'est pas facile nécessairement à réaliser, mais elle est simple. Une liste de 3 choses à faire que vous pouvez ajouter. OK, faites ça pour de vrai. À chaque fois que vous faites une liste, mettez ces 3 choses-là en priorité juste avant. Et cette liste-là, elle est dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Elle est simple. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Woo! Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. 3 choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 3 choses à faire à tous les jours, en tout temps. 3 choses que Dieu veut pour nous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Et pour bien comprendre ces exhortations que Paul écrit aux Thessaloniciens, j'espère que je vais le dire aussi bien que ça tout au long du message, aux Thessaloniciens, à la fin de sa lettre, on va décortiquer ensemble, avant de décortiquer ces trois choses-là à faire, on va regarder ensemble un peu dans le reste de la lettre. Ces 5 chapitres, on ne va pas les lire, évidemment, tout au complet, mais je vais lire quelques bouts. Et cette lettre, elle a été écrite en 51 après Jésus-Christ par l'apôtre Paul, environ 2 à 3 ans après avoir fondé cette église dans la ville de Thessalonique, qui se situe aujourd'hui en Grèce. Et Paul aurait écrit cette lettre-là à partir de la ville de Corinthe. Et j'aimerais que vous portiez attention à la façon dont Paul parle de l'Église de Thessalonique. Alors, je vous lis ceci à partir du verset 1. Voici comment elle commence cette lettre-là. « De la part de Paul, Sylvain et Timothée, donc ils étaient une équipe, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Et par la suite, il va expliquer à la fin du chapitre 3 qu'il aurait voulu en fait aller visiter l'Église, mais il n'a pas pu y aller. Et donc, il va envoyer Timothée y aller à sa place. Et Timothée revient avec des nouvelles en fait de l'Église. C'est ce qu'il explique ici à partir du chapitre 3, verset 6. « Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et elle nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant, nous vivons puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant Dieu? » Paul et son équipe, comme vous avez peut-être remarqué, il dit à quel point il est reconnaissant pour cette église de Thessalonique qu'il a fondée. Il prie pour eux, hein? On voit que l'apôtre Paul prie pour l'église. Il se rappelle aussi et il souligne les belles œuvres de cette église-là. Et dans leurs épreuves, à l'apôtre Paul, qui est persécuté, qui vit toutes sortes d'épreuves, ils sont encouragés par leur foi, par la foi des Thessaloniciens. C'est un sujet de joie pour eux. Laissez-moi donc, avec tout ça en arrière-plan, vous adresser un mot pastoral aujourd'hui à notre belle église de Charlevoix, Nouvelle Vie Charlevoix. Comme l'apôtre Paul et ses collaborateurs, ça fait également environ 2 ans que Julien et moi, on est pasteurs de Nouvelle Vie Charlevoix et je voudrais prendre quelques minutes pour vous partager notre cœur, comme le fait Paul et ses collaborateurs avec les Thessaloniciens. Sachez que nous prions pour vous. Nous prions pour vous, pour chacun d'entre vous individuellement, pour vos épreuves, pour vos proches, pour votre famille. On prie aussi pour nous en tant que communauté, que dans Charlevoix, en tant qu'Église. Sachez aussi que, comme pour l'apôtre Paul, votre foi est un sujet de joie pour nous. Notre plus beau cadeau en tant que pasteur, c'est de voir des gens grandir dans leur foi, des gens être transformés, être renouvelés de plus en plus à la ressemblance de Christ. J'aimerais aussi souligner quelques caractéristiques, quelques belles caractéristiques de notre Église distinctive ici dans Nouvelle Vie Charlevoix et pour vous en féliciter comme l'apôtre Paul l'a fait. Je veux souligner votre accueil chaleureux et c'est quelque chose qui a été déterminant même pour Julien et moi de déménager ici dans la région parce qu'on se sentait toujours vraiment encouragé à chaque fois qu'on venait vous visiter il y a environ maintenant 7 ans, 8 ans, 9 ans de ça. Ouh, déjà, c'est troublant. Vraiment, l'accueil chaleureux. Je veux souligner aussi votre sensibilité, votre dévouement et votre amour les uns envers les autres. Vraiment, des gens rendent visite à des malades, des gens s'entraident, des gens s'aiment, ils prennent des nouvelles les uns de l'autre. Et ça, même nous, en tant que pasteurs, on n'a même pas besoin de faire plusieurs choses parce que vous le faites d'une façon naturelle. Il y a de l'amour les uns pour les autres. Je veux souligner aussi la persévérance de ceux qui sont dans la région depuis des années et qui persévèrent dans leur foi. Je veux souligner votre désir de faire aussi connaître votre zèle, à faire connaître votre foi à votre entourage et aussi à la région. Je veux souligner votre capacité, votre engouement au changement. Attention, ça, c'est pas quelque chose qui est donné à toutes les églises. Des fois, il y en a qui s'ostinent sur la couleur il y a des divisions sur la couleur du plancher ou du tapis. C'est vraiment arrivé pour de vrai. Et ici, on vous amène à toutes sortes de saisons, dans toutes sortes de changements, d'un local à l'autre, de Baie-Saint-Paul à la Mabée, des heures qui changent, des heures de réunion, et vous êtes avec nous, vous nous faites confiance à chaque nouvelle saison, à chaque nouvelle étape. Alors merci, vraiment merci pour la belle église que vous êtes. Sachez que Julien et moi, on vous aime, on prie pour vous, et nous savons que Dieu a de belles choses en réserve pour son église ici dans Charlevoix. Est-ce que vous le croyez aussi? Amen. Regardez maintenant comment l'apôtre Paul continue sa lettre au chapitre 4, okay? Après avoir mis toutes ces belles choses de l'avant dans l'Église. Regardez bien ce qu'il dit, c'est spécial. À partir du verset 1 dans le chapitre 4. « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes bon là-dedans, let's go, c'est bon, thumbs up. » De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que votre progression dans la sainteté. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel en voulant dire, vous aimez déjà beaucoup les uns les autres, c'est déjà quelque chose qu'on remarque. Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière, à travers la région où ils étaient. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Et en terminant aussi sa lettre, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de la paix, il termine comme ça, « vous conduise lui-même à une sainteté totale, okay, rien de moins, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voici pourquoi, semaine après semaine, nous prêchons, nous enseignons, nous faisons des suivis pastoraux, nous encourageons, nous faisons des cours de lecture biblique qu'on a fait cet été, parce que nous voulons progresser avec vous sur le chemin de la sanctification. Et vous savez comme moi qu'on ne sera pas personne ne va être parfait un jour. Hein? Personne ne va pouvoir être parfait. Donc, l'œuvre que nous sommes ne sera jamais achevée avant le retour de Christ. C'est pour ça qu'il y a toujours de la progression possible dans nos cœurs, dans nos esprits. Et ce n'est pas pour vous mettre de la pression, pour vous décourager que nous faisons des exhortations, qu'on vous exhorte à faire certaines actions. Ce n'est pas pour donner une liste de choses à faire, une liste de choses à ne pas faire. C'est pas pour que, c'est plutôt pour que nous puissions pour que nous puissions être sanctifiés, pour que nous progressions dans la foi, pour que la puissance, par la puissance de l'Esprit, on puisse être façonnés de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et les trois encouragements de Paul à la fin de sa lettre, selon moi, constituent vraiment une clé pour la sanctification, pour le renouvellement de l'intelligence. Et on va les décortiquer ensemble. On se rappelle, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Et on peut se présenter ces trois choses à faire comme sous le format d'une liste, comme je vous ai présenté tout à l'heure, mais on peut aussi se le présenter comme ici, on a ici comme un graphique, comme un cercle en fait. Un cercle dans lequel on peut entrer, qui représente notre état d'âme. Et l'idée du cercle, c'est l'idée du cercle nous permet de mieux comprendre que, en fait, la dynamique qui peut se jouer entre toutes ces choses-là. On peut entrer à n'importe quel endroit, c'est pas comme des choses prioritaires, une sur l'autre, lui avant l'autre, non. On peut entrer à n'importe quel endroit dans le cercle. Et cette première action que tu vas poser va avoir un impact sur l'autre action. Tu vas rentrer dans une dynamique. Je te donne un exemple. Si tu ne te sens pas joyeux, okay, tu te lèves un matin, tu es découragé, et je sais que ça m'arrive juste à moi, okay, ça n'arrive sûrement pas à personne ici. Si tu as juste envie de rester en pyjama et de relaxer, mais si tu commences à rendre grâce à Dieu pour ce qui est devant toi, tu vas voir que très possiblement la joie va commencer à émerger dans ton cœur. Ou encore, si tu es joyeux et tu es serein dans ton cœur, ben peut-être ça va te pousser à prier, à intercéder avec foi pour des gens autour de toi. En d'autres termes, peu importe où tu entres dans le cercle, peu importe l'action avec laquelle tu commences, cette première action peut déclencher la dynamique et faire en sorte que tu entres dans cet état d'esprit que Dieu veut pour nous. Dieu veut pour nous, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et en comparaison, voici le cercle vicieux dans lequel tu peux sombrer. Ici, on regarde le prochain cercle ici. L'état d'esprit dans lequel nous pouvons rester pris si on ne fait pas attention. Être toujours découragé. Amen. Bouder sans cesse. Et j'ai remarqué avec les années que le péché nous isole. Le péché isole. Il nous isole de Dieu et il nous isole des autres. Bouder, ça peut être bouder Dieu, puis ça peut être bouder les autres. Se plaindre en tout temps, amen, alléluia. Ces deux cercles représentent l'état d'esprit dans lequel tu peux te trouver et cet état d'esprit va affecter tes pensées, tes attitudes et tes comportements. Ça va avoir vraiment un impact sur tout le reste. Le premier cercle t'amène la joie, la persévérance, la foi, l'intimité avec Dieu. Tandis que le deuxième peut te pousser à abandonner, à devenir peut-être une personne cynique, à t'isoler. Julien et moi, on écoute deux séries télévisées de compétition. Si on voit la prochaine diapo, on écoute Pékin Express. Donc, ça se passe pas en France, ça se passe dans différents pays, mais c'est un show français. Pékin Express, c'est plusieurs binômes, donc plusieurs équipes de deux, et ils se promènent à travers différents pays et des épreuves quand même assez intenses leur sont proposées. Et ceux qui passent à travers les épreuves vont passer à un autre pays, voyage de pays en pays. Et évidemment, il y a une équipe gagnante qui est allée jusqu'au bout. On est rendu à la 17e saison, je pense 18e saison quand même. C'est assez populaire. Je vous encourage de l'écouter. C'est quand même très bon. Et on a Alone aussi, où les survivants, la dernière saison est sur Netflix. Et ça, c'est 10 personnes seules. Donc, vous avez compris, Alone, ça veut dire seules. 10 personnes qui sont lâchées à un endroit et ils doivent survivre. Ils doivent trapper, trouver leur nourriture. Ils n'ont rien, 10 objets seulement avec eux. Ils doivent se faire un abri. La dernière saison qui est sur Netflix, ils sont déposés en Arctique, Juste ça. Donc, dans la neige, etc., c'est vraiment merveilleux. Et le but, c'est de survivre le plus longtemps possible. Donc, le dernier qui abandonne. Il y a des équipes médicales qui vont sur place et tout. Donc, tout se passe sous contrôle. Mais c'est vraiment intense. Et à chaque fois qu'on commence ces saisons-là, ces épisodes-là, on se fait un pronostic, Julien et moi, sur qui va être le gagnant. C'est normal. C'est qui va gagner cette fois-ci? Et on est souvent surpris, en fait, de qui est le gagnant. Parce qu'au début, on constate seulement les capacités, les talents, soit des équipes ou des personnes qui sont là. Mais au fur et à mesure qu'on voit les épreuves, c'est l'état d'esprit des gens qui se révèle. Quand on voit les gens qui commencent à se décourager ou d'entrer dans une espèce de torpeur, c'est très rare que ces personnes-là vont finir par gagner à la fin. Une personne motivée qui ne se décourage pas, qui pousse ses limites, qui va avoir beaucoup plus de chances de gagner en fait que quelqu'un qui se décourage. La conclusion en fait, c'est que la victoire dépend en grande partie de l'état d'esprit de la personne. C'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué. Et ce qui est particulier aussi, c'est que dans Pékin Express, ben ils sont deux. Alors, on voit que souvent, il y en a un qui est dans l'état d'esprit de découragement, mais l'autre a un impact très souvent positif sur l'autre et ça lui permet à son coéquipier de passer à travers et de reprendre courage, de retrouver la motivation à cause de son coéquipier. Parce que notre état d'esprit a non seulement un impact sur nos pensées, nos attitudes, nos comportements, mais aussi sur nos relations. C'est pas juste une affaire individuelle. Est-ce que tu as déjà côtoyé quelqu'un de négatif qui se plaint tout le temps? Tu as sûrement une image dans ta tête. Bon, on prie pour de l'amour pour cette personne-là. Ça ne nous donne pas envie d'être avec ces personnes-là. Et c'est peut-être toi qui es cette personne négative aussi. Hein? Je me le dis à moi-même, tout à fait. Parce que notre état d'esprit affecte les autres autour de nous. C'est pour ça qu'on est capable aussi de ressentir des fois des froids quand on rentre dans une pièce, pas parce que la température a baissé, mais on sent qu'il y a un malaise ou qu'il y a quelque chose. Ou quelqu'un, quand on perçoit que quelqu'un boude ou qui bougonne, on le voit, on peut le percevoir, même sans échanger un seul mot. Et regardez comment les encouragements de Paul sont ancrés dans un objectif communautaire. On va lire juste les versets avant notre liste de choses à faire, prier sans cesse, etc., à partir du verset 13 dans le chapitre 5. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, etc., etc. Voyez-vous à quel point c'est communautaire, ces choses-là, c'est pas juste pour nous qu'on le fait, qu'on veut prier, qu'on veut être joyeux, c'est aussi pour les autres. Nous pouvons influencer positivement les gens autour de nous par notre état d'esprit. Quel état d'esprit veux-tu cultiver pour toi-même et pour les autres autour de toi? Quel genre de fruits veux-tu porter pour les autres qui t'entourent? Veux-tu être négatif, critiqueux, bougonneux ou tu veux être joyeux, reconnaissant, proche de Dieu? Timothy Keller a écrit un livre sur la prière et il dit ceci dans son livre. La prière est une mélodie que les autres peuvent entendre autour de nous. C'est pas juste une question de relation personnelle. On est bien là-dedans, là, les Nord-Américains évangéliques. Là, relation personnelle avec Dieu, c'est bien, oui, mais c'est pour la communauté aussi. Quand votre cœur chante Dieu, votre joie touche vos proches. Vous n'êtes ni fier, ni froid, ni inquiet, ni dans l'ennui. Vous vous oubliez vous-même. Vous êtes chaleureux, rempli d'une paix profonde et d'un intérêt pour les autres, ce qui ne leur échappera pas. Lequel de ces deux états d'esprit veux-tu cultiver pour toi et pour les autres? Je t'encourage à choisir le premier cercle qu'on a vu ensemble, évidemment, et on va justement voir ensemble comment est-ce qu'on peut cultiver cet état d'esprit en regardant à ces trois actions que l'apôtre Paul nous encourage à faire. Êtes-vous toujours là? Yes? Merveilleux. Donc, premièrement, soyez toujours joyeux. Ouf, gros mandat. Je vous garantis que ça ne m'arrive pas dans la vie. Non. Je n'y arrive pas du tout, mais le but, c'est de tendre vers ce but-là. L'objectif, c'est de se voir dans le cercle, puis si on est dans l'autre cercle vicieux, ben, d'être capable de ne pas rester dans ce cercle vicieux-là. Et c'est pour ça qu'on va regarder ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir le faire. J'ai un scoop pour vous. La joie ne dépend pas de nos circonstances. La joie ne dépend pas de nos circonstances. Et c'est vraiment une vérité difficile à accepter dans notre société de confort où on n'est pas habitué à la souffrance. On n'en veut pas de la souffrance, en fait. La plupart d'entre nous, nous pensons peut-être que le bonheur ou la joie peut se trouver en changeant nos circonstances. Ou c'est ça, des fois, notre réflexe qu'on a, mais il faut comme revenir à d'autres choses, à la parole. Si j'ai une meilleure job, bien, ça va aller mieux. Si j'ai une meilleure santé, ça va aller mieux. Plus d'argent, plus d'amis, plus de succès. Bien, là, je vais être joyeux. Là, je vais être heureux. Mais la Bible nous montre que la joie ne dépend pas de nos circonstances. Regardez seulement les destinataires et l'auteur de la lettre dans Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, en fait, vivent la persécution. Le passage ne sera pas à l'écran, mais faites juste écouter ceci, chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes et nous vous avons envoyé Timothée. Donc, c'est à ce moment-là qu'il dit qu'il a envoyé Timothée. Pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. C'est pas beau en ce moment, ils vivent des persécutions. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. C'est une église qui est persécutée. Et maintenant, regardons Paul, l'auteur de la lettre. Il est passé à travers quoi, lui, de son côté, pour pouvoir dire « Soyez toujours joyeux ». Facile à dire, mon ami. OK, ben on va aller là. Qu'est-ce qu'il a vécu, lui? 2 Corinthiens 11, 23 à 28, ça ne sera pas à l'écran non plus. « J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins un. » Ça, c'est d'être fouetté, dans le fond. « 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment, en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes. » Oh, ça va pas. En danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans le désert, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid, au dénuement, et sans parler du reste, je suis assailli, et ça c'est par le souci que j'ai de toutes les églises. Il est aussi préoccupé, il a vu le poids des charges qu'il a. Moi, j'ai mal au ventre un peu, puis je dis « Seigneur, viens me chercher. » OK, comprenez-vous à quel point on ne connaît pas la souffrance dans notre contexte. Et si l'apôtre Paul, qui a vécu tout ça, dit aux Thessaloniciens qui sont persécutés à ce moment-là d'être toujours joyeux, bien, c'est qu'il le sait très bien que la joie ne dépend pas des circonstances, mais que c'est une disposition de cœur. On a un exemple vraiment spécial qui est arrivé au début du conflit en Ukraine qui a pris place il y a, je pense, 2 ans environ déjà. Et il y a une vidéo qui est devenue virale, en fait. C'est une petite fille ukrainienne et le titre de l'article qui partageait cette vidéo-là. Une petite fille ukrainienne qui chante une chanson de Disney dans un abri anti-bombe. Okay? Donc, on va regarder le petit extrait qu'on a ici pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu. Будь хорошей девочкой для всех, закрой все чувства на замок, навечно отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть, отпусти и забудь, новый день он кажет путь, не боюсь ничего уже. Quand même particulier, on comprend pourquoi est-ce que ça a fait le tour du monde. Si cette petite fille est capable de vivre ce petit moment de joie alors que son pays est en train de se faire bombarder au-dessus d'elle, mais je crois qu'on peut conclure que la joie ne dépend pas des circonstances. Et je crois qu'on devrait être capable de supporter les soucis de notre vie. C'est sans minimiser nos souffrances. Elles sont présentes, elles sont là, nos préoccupations. Mais quand même, je sais que la majorité d'entre nous, c'est des choses qui sont souvent moindres que la guerre ou tout ce qu'on a lu de l'apôtre Paul et tout ce que Jésus a vécu à notre place aussi. Je pense qu'on est capable de trouver, par la grâce de Dieu, par son esprit, on est capable de trouver une joie profonde puis d'avoir une attitude de joie. Et personne n'est à l'abri de tomber dans le cercle vicieux du découragement. Pour être honnête, c'est la semaine passée. Là, il y a 2 semaines, j'ai vécu pas une belle journée, les amis. Et ça a affecté mes proches, clairement. Inquiétez-vous pas, on est tous dans le même, Julien, en particulier, on est tous dans le même bateau. C'est normal d'y aller, de rentrer, d'être pris dans ce cercle-là. On est des êtres humains. On vit des émotions, mais il faut arriver à identifier quand est-ce qu'on rentre dans ce cercle vicieux-là et sortir au plus vite par la grâce de Dieu, par son esprit, pour rentrer dans l'autre état d'esprit que Dieu a préparé pour nous. Comment donc retrouver la joie quand je suis découragée? Comment être toujours joyeux? Bien, il y a 2 façons simples que tu peux trouver la joie. Si tu te rends compte que tu n'es pas joyeux, premièrement, et c'est affiché à l'écran, entre dans la joie de Christ. Entre dans la joie de Christ. Dans Philippiens 3.1, l'apôtre Paul va dire « Réjouissez-vous toujours. » Okay, il dit ça tout le temps, finalement, à toutes les églises. C'est pas compliqué. Mais il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Même chose, Philippiens 4.4. La source de notre joie, c'est Jésus. C'est lui qui produit le fruit en nous. Galates 5.22 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. » C'est le fruit de l'esprit. Jean 15-11 nous dit « Je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui dit ça, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ma joie soit en vous, c'est la joie de Christ, c'est lui qui peut produire et qui peut nous donner sa joie parce qu'en nous-mêmes, on a de la difficulté à la trouver. La joie se trouve en Christ, il est la source de notre joie. Tu peux toujours aussi trouver une raison de te réjouir en Christ, en voyant son amour, son salut, sa présence, son retour imminent, pourquoi pas l'espérance de son retour. Entre dans la joie de Christ et entre, la deuxième chose, entre dans le cercle. Entre dans le cercle, ça paraît comme une secte un peu, là. Entre dans le cercle de l'état d'esprit que je vous ai montré tantôt. Comme je l'ai dit, dans le fond, c'est que tu peux rentrer à n'importe quel endroit dans le cercle, au sens où si tu n'es pas joyeux, bien, commence à prier ou commence à remercier, à rendre grâce à Dieu, à prier, à dire, ben Dieu, je suis pas dans le cercle, je suis pas joyeuse, etc., etc. Et là, tu rentres dans le cercle et dans cette dynamique-là. Et Dieu va t'apporter la joie par son esprit parce que c'est lui qui produit la joie en nous. Si tu n'entres pas dans le cercle par la joie, ben choisis une autre porte. Amen. Deuxième point, prier sans cesse. Vous savez, comme moi, qu'on a des choses à faire ou dans la vie, là, hein? on a listé une chose, on a dit qu'on faisait des listes de plusieurs choses à faire. C'est pas possible de prier au sens de prier verbalement, littéralement, tout le temps, sans cesse. Des fois, on doit s'adresser à des personnes, écrire des formulaires, etc. Vous comprenez le concept? Mais l'idée, c'est d'être dans une attitude de prière aussi en tout temps. Ça, c'est possible de le faire. Se souvenir de Dieu, se rappeler de notre besoin de lui, être sensible à sa présence. Se rappeler de notre rôle de témoin et vouloir faire sa volonté quand on a des choix, des hésitations, des décisions, quand il faut que tu choisisses la marque de ketchup que tu vas choisir. Parce que là, il faut que tu calcules le prix et tout. Demande à Jésus de t'éclairer. Pourquoi pas? Paul va dire aussi en Éphésiens 6-18, « Priez en tout temps par l'Esprit. » Avec toutes sortes de prières et de supplications, toutes sortes de prières. Et en lisant la Bible, on se rend compte que justement, les auteurs vont utiliser toutes sortes de prières. Il va y avoir dans des contextes différents, des styles différents, des attitudes différentes. Nous pouvons prier en tout temps en faisant toutes sortes de prières et de supplications. Dans chaque situation, en fait, tu peux prier Dieu. Prier sans cesse, c'est inviter Dieu dans toute l'expérience de ta vie. Voici à quoi peut ressembler ta prière intérieure, ton prier sans cesse. Tu peux remercier Dieu, ou sourire, puis être rempli de joie parce que tu vois le beau soleil ce matin, hein, puis dire merci Seigneur pour cette belle journée. Quand quelqu'un te tape sur les nerfs, ta collègue, ton ami à côté de toi, à l'école, ton enfant même, on ne le dira pas, les enfants sont cachés, on ne le dira pas, ça peut arriver. Mais tu peux prier dans ta tête, Saint-Esprit, donne-moi de l'amour, de la patience, fais justement, donne-moi le fruit de ton esprit en moi. Quand tu sens monter l'anxiété, bien, imagine-toi Jésus avec lui, à tes côtés. Quand tu lis le journal, que tu vois toutes les mauvaises nouvelles, tu peux commencer à, pourquoi pas, intercéder pour ces choses-là. Devant un bon repas, on peut remercier Dieu de pourvoir à nos besoins en toutes circonstances et c'est d'être conscient de la présence, de l'action de Dieu tout au long de ta journée. Et c'est un cheminement, on est en progression. L'apôtre Paul, il dit progresser toujours. Ça se peut que tu sois rendu là, mais tu es appelé à faire juste un autre pas de plus dans cette conscience-là avec Dieu. Et tout comme la joie ne dépend pas des circonstances, la prière non plus ne devrait pas dépendre des circonstances. En fait, c'est un peu ça, le prier sans cesse. Et on va prier, oui, quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Certaines personnes ont tendance à prier Dieu seulement quand ça va mal. « Seigneur, viens m'aider! » D'autres ont tendance à oublier Dieu quand ça va mal. « T'es où, Dieu? Voyons, ça n'a pas d'allure, je suis abandonnée. » Et encore une fois, Timothy Keller, dans son livre sur la prière, il a écrit ceci. La pleine connaissance de Dieu, la pleine connaissance de Dieu est un élément plus important à acquérir que vivre un changement de circonstances. Sans un vécu profond de la réalité de Dieu, des circonstances favorables, donc des bonnes circonstances, peuvent mener vers une confiance en soi excessive, une indifférence spirituelle. Qui a besoin de Dieu lorsque la situation semble sous contrôle? Et c'est là que la gratitude entre en jeu. Par ailleurs, sans cette illumination du cœur, des circonstances défavorables peuvent produire du découragement, du désespoir, puisque l'amour de Dieu sera un concept abstrait plutôt que sa présence d'un réconfort infini. Ainsi, nous devons mieux connaître Dieu si nous voulons affronter la vie, quelles que soient les circonstances. L'apôtre Paul ne considère pas la prière comme un moyen d'obtenir des choses de Dieu, mais comme un moyen d'être rempli davantage de Dieu lui-même. Prier revient à faire tout son possible pour s'attacher à Dieu. Prier sans cesse, c'est s'attacher à Dieu tout au long de nos journées. Amen. C'est ce que j'ai de plus en plus dans ma vie. Finalement, l'apôtre Paul nous encourage à rendre grâce en toutes choses. Il y a plusieurs choses qui divisent les gens. Il y a plusieurs, on a différentes personnalités, mais une des choses qu'on peut se séparer ici dans la salle, c'est entre les pessimistes et les optimistes. OK, peut-être on va être moitié-moitié, mais j'ai préparé pour vous un sondage pour qu'on puisse départager qui est pessimiste et qui est optimiste. Alors, ces quatre questions bien scientifiques vont vous révéler qui vous êtes ce matin. Êtes-vous prêt, dans le fond, à comptabiliser combien de A vous êtes ou combien de B vous êtes? OK, c'est pas compliqué. Quatre questions, toutes simples. Et là, on commence par une classique. Tu vois le verre A à moitié plein ou B à moitié vide? Donc, comptabilisez. Faites un affaire de pouce, les A d'un bord, les B de l'autre. Numéro 2, question numéro 2. Je vois les épreuves de la vie comme A, une opportunité d'apprendre, B, une saison à traverser le plus vite possible. On pense à la réponse. Question numéro 3. Une personne toujours très joyeuse, positive et dynamique, A, t'apporte de la joie ou B, te tape sur les nerfs? C'est ma question préférée. Question numéro 4, on continue de comptabiliser. À quoi pensez-vous quand vous mangez des jujubes? A, c'est bon. B, ce n'est pas bon pour la santé. Ou C, c'est fait avec de la gélatine de porc. Ouais, certaines personnes ne le savaient pas. Donc, comptabilisez, faites vos calculs. Les A, vous êtes évidemment des optimistes. Les B, des pessimistes. Alors, qui est A? Qui est optimiste? Qui est pessimiste? Ah, puis il y a des 1 un peu entre les deux. Qui est entre les deux? OK, ben c'est quasiment 3-3-3. Et les C, ben c'est sûrement des végétariens. Mais bon, ça, c'est une petite blague à part. Et là, j'interdis à tous les B de dire au A, tu me tapes sur les nerfs. OK, on garde ça pour nous. S'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous appelés à développer un regard positif, à rendre grâce en toutes choses. Et c'est-à-dire à trouver une raison de se réjouir, de remercier Dieu en toutes choses, parce qu'il y a toujours quelque chose de positif à souligner. Cette chose-là va être peut-être plus difficile, justement, pour les pessimistes. Je veux quand même noter que cet état d'esprit, ce n'est pas la pensée positive ésotérique qui existe ici dans le monde. Il existe une croyance comme quoi on peut, par notre pensée, notre manifestation dans l'univers, donner forme à quelque chose, en fait. Créer la réalité que nous désirons à partir de notre pensée, de nos émotions. C'est la loi de l'attraction, en fait, c'est vraiment ésotérique et ça prétend que l'univers va réaliser nos rêves si nous pensons de manière suffisamment positive et si on y pense fort, 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 fort. Et j'aimerais dire que ces croyances, en fait, c'est des mensonges qui nous poussent à vivre aussi pour accomplir des buts qui sont souvent égoïstes, égocentriques et qui nous font croire aussi que nous sommes, nous, des créateurs. On crée nous-mêmes la réalité qu'on veut alors que nous savons que la Bible déclare qu'il y a un seul Dieu créateur et c'est Dieu. Et c'est triste aussi de voir le poids que les gens qui sont dans ces croyances-là vivent en fait avec le poids de leur vie, le poids de leur réalité sur leurs épaules. De penser que les bonnes choses arrivent si tu es assez bon pour être positif alors que les christianistes, c'est totalement l'inverse. On sait qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. Toutes les bonnes choses ont été accomplies par Christ et elles sont accessibles pour nous gratuitement à chaque instant si on reconnaît justement notre besoin de lui pour lui rendre gloire à notre Dieu créateur parce qu'on est ses créatures pour accomplir ses buts à lui qui nous savons sont bons et parfaits. Rendre grâce en toutes choses, ce n'est pas non plus faire du déni. OK, c'est pas nier les difficultés. Ben non, tout va bien. Ben non, ça va pas tout bien. Je veux dire, je suis dans la maladie, j'ai perdu quelqu'un de proche de moi, je suis découragée, je trouve ça difficile. Non, ce n'est pas du déni des réalités, des difficultés. Mais c'est être capable de trouver des raisons de rendre grâce malgré tout, parce que oui, il y a toujours des raisons pour rendre grâce à Dieu. Et c'est pour ça qu'on lit même dans la Bible que nous pouvons nous réjouir même dans l'épreuve, hein, parce que l'épreuve produit la persévérance, parce que ça nous apporte des fruits spirituels aussi qui sont bons et voulus de Dieu. Et Julien, pendant que tu t'avances, je vais terminer avec cette illustration-là. Pense à un horizon en regardant les circonstances de ta vie, comme on voit ici, comme avec une lumière au bout du tunnel. Parfois, on voit, si on regarde juste autour de nous, on voit que tout est noir, en fait. Et je t'invite à regarder, si tu es dans une saison justement plus difficile, je t'invite à regarder peut-être un petit peu plus loin. Ça peut être le début des parois ici. Tu peux commencer à trouver des choses un peu positives dans ta vie. Peut-être que tu vas être capable de rendre grâce pour une personne qui t'aide à travers ta difficulté, pour le toit tout simplement que tu as sur la tête en regardant en comparaison avec tout ce qu'on voit dans la misère, de la nourriture sur la table, un emploi stable, des amis. Commence à regarder les parois autour, porter ton regard un peu plus vers l'horizon tranquillement. Mais d'autres fois, l'épreuve va tellement être grande que tu vois juste du noir puis tu vois juste la lumière au bout du tunnel. Mais plus on regarde l'horizon, plus notre regard est porté vers le ciel, en fait. Le plus grand horizon, c'est le ciel et on peut toujours trouver une raison de se réjouir et de rendre grâce pour cette espérance que Dieu nous donne. En regardant toujours vers l'horizon, tu peux regarder dans le fond vers le ciel, vers l'espérance, vers le paradis, développer une perspective éternelle, un point de vue d'espérance dans le monde, dans ta situation. La lumière au bout du tunnel, c'est Jésus que nous allons un jour rencontrer. À tous les jours, nous avons la plus grande raison de nous réjouir, de rendre grâce. C'est ça, il ne faut jamais le prendre pour acquis. Regardons vers l'horizon en tout le temps, en fait. Que ce soit dans la difficulté ou même dans des périodes qui sont bonnes. C'est la bonne nouvelle de savoir que Dieu a envoyé son Fils pour pardonner nos péchés, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Puis un jour, oui, toutes ces difficultés-là vont être dissoutes. La mort va être complètement enrayée. La tristesse, les difficultés. Et on va pouvoir, justement, pour l'éternité, être toujours, et là, parfaitement, là, joyeux. On va toujours être dans un état de prière. On va toujours être dans un état de grâce. Un jour, ça va arriver, mais d'ici là, on peut commencer à regarder vers l'horizon, chacun d'entre nous. En conclusion, si tu ne te sens pas joyeux, si tu ne te trouves pas, si tu ne trouves pas peut-être de raison de rendre grâce, si tu n'es pas dans cet état d'esprit, qui était plutôt dans le cercle vicieux du découragement, mais choisis aujourd'hui d'entrer dans le cercle par la prière, avec la simple prière de dire à Dieu que tu n'es pas dans cet état d'esprit, que tu as besoin de lui pour rentrer dans cet état d'esprit. Et tu sais quoi? C'est qu'en faisant ça, ben, t'entres dans ce cercle, dans cet état d'esprit, parce que tu te mets à prier et à demander l'aide de Dieu pour toi. Paul termine sa lettre en disant au verset 5, chapitre 5, verset 24. Celui qui vous appelle est fidèle. Il est toujours avec nous. Il est toujours présent. C'est aussi lui qui le fera. Il le fera. C'est lui qui fera cette œuvre en nous. C'est pas par nos propres forces. C'est pas parce qu'on pense assez positif pour créer ça en nous. Non, c'est lui qui va le faire. T'as juste à lui demander. T'as juste à lui demander. Par ce chant qu'on va chanter, qu'on puisse entrer dans cet état d'esprit. Déjà, faisons-le ensemble. Faisons-le ensemble. Entrons dans cet état d'esprit. En faisant l'une de ces trois actions, peut-être, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Réjouis-toi en Jésus. Peut-être que c'est ce que tu vas pouvoir faire aujourd'hui, dans les prochaines minutes. Ou prie pour qu'il te fasse entrer dans cet état d'esprit. Qu'il te délivre aussi du cercle vicieux, du découragement par la puissance de son esprit. Amen. Qu'on puisse faire ça ensemble. Entrons dans ce moment de prière.